Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter là.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2h, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoutez le Canu Info du lundi 2 octobre et on commence avec les titres.
À l'international, on va parler du Haut-Karabakh et de l'extension de la grève dans l'industrie de l'automobile aux États-Unis.
Et puis au national, on parlera de l'interdiction du port du voile pour les athlètes françaises au JO 2024. Ainsi que un nouveau. On va reparler de Emmaüs et de cas d'esclavage moderne.
Puis au local, on parlera d'abord d'un rassemblement qui a eu lieu devant le rectorat avant de nous intéresser à un accident qui a eu dans une usine lyonnaise. Et enfin, on parlera des piscines en grève avant d'écouter un dernier reportage sur un rassemblement qui a eu pour l'IVG. Et on finira l'émission avec deux invités cette fois-ci. D'une part, des étudiants et étudiantes de l'UNEF qui vont nous parler du mouvement sans fac, et une cheminote qui va nous parler de la tentative de liquidation de fret SNCF.
Mais d'abord, on commence avec...
International.
L'international, donc, et on part au Haut-Karabakh.
Et oui, vous le savez sans doute, vous avez peut-être entendu cette information. En tout cas, le 19 septembre, l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh. 24 heures plus tard, les soldats de la République du Haut-Karabakh déposaient les armes. Et vous avez sans doute vu ces images des rues désertes de la capitale Stepanakert. Alors, mais c'est quoi le Haut-Karabakh et que se passe-t-il dans cette région disputée depuis plus d'un siècle? Alors, c'est une petite enclave d'environ 3000 m². Alors, ça dépend des périodes, hein, mais on n'a pas trop le temps de s'étaler, qui se situe au sud-ouest de l'Azerbaïdjan, pas très loin de l'Arménie et qui est donc habitée majoritairement d'Arméniens. Malgré cette population arménienne donc très majoritaire, en 1921, le Haut-Karabakh est rattaché à l'Azerbaïdjan par les soviétiques. Puis, au moment de l'éclatement de l'URSS, la région proclame enfin son indépendance. La République du Haut-Karabakh voit le jour, mais aussi une guerre particulièrement meurtrière avec l'Azerbaïdjan. Ce conflit, donc, qui va durer jusqu'en 1994, fera 30 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Le Haut-Karabakh, malgré tout, réussit à maintenir son indépendance et sa propre armée. Et après plus de 20 ans, une première attaque de l'Azerbaïdjan, donc en 2016, fera également de nombreux déplacés. Mais c'est en 2020 que la situation bascule vraiment au profit de l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan attaque de nouveau le Haut-Karabakh. Après quelques mois de guerre, un cessez-le-feu est proclamé, mais la République du Haut-Karabakh en ressortira extrêmement affaiblie avec la perte des trois quarts de son territoire et de nouveau des déplacements de population très importants, donc majoritairement vers l'Arménie. C'est sous l'égide russe que va s'organiser la paix à partir de 2020. Il faut savoir que le territoire est un enjeu géopolitique depuis de nombreuses années, hein, puisque l'Azerbaïdjan est très riche en hydrocarbures. C'est un allié de la Turquie et la Russie est évidemment très influente dans la région. En juillet 2022, et ça a son importance, l'Union européenne signe un accord de renforcement des relations bilatérales, particulièrement en matière d'énergie avec l'Azerbaïdjan. Concrètement, c'est pour exploiter le gaz. C'est probablement ce qui marque le coup de grâce pour le Haut-Karabakh, puisque cet accord va renforcer évidemment les positions de l'Azerbaïdjan dans la région. Donc ça c'est en 2022, ça fait déjà 2 ans, donc le dernier cessez-le-feu a été prononcé. Depuis 2 ans, il y a une seule route qui permet l'accès à l'enclave, donc qui est contrôlée par les soi-disant forces de paix russes. Et tout s'accélère après la signature de cet accord, puisque le 12 décembre, des Azerbaïdjanais, donc... A priori, pas du gouvernement, bloque la route, la seule route qui mène au Haut-Karabakh. Et dans un premier temps, ce que le gouvernement azerbaïdjanais va expliquer, c'est qu'il s'agit de militants écologistes qui souhaitent accéder à la mine de Kachen, qui est située donc au Haut-Karabakh. En réalité, ces soi-disant militants sont bien entendu pilotés par le gouvernement, qui va ensuite menacer de tirs de roquettes pour avoir accès à cette mine. Bon, progressivement, l'armée de Bakou, donc la capitale de l'Azerbaïdjan, finira par grappiller du terrain et verrouiller complètement l'accès à l'enclave, ce qui va entraîner évidemment un désastre humanitaire, hein, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus d'essence. En août, les premiers morts de faim, sans aucune réaction des forces de maintien de la paix russes. C'est donc après plusieurs mois de ce blocus et une région complètement affaiblie que Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, décide le 19 septembre de porter le coup de grâce, alors soi-disant pour des motifs antiterroristes. Il se trouve que la population était tellement affaiblie qu'à peine 24 heures après, tout le monde a déposé les armes. La région, elle comptait plus de 180 000 habitants en 1988. Elle avait déjà perdu près d'un tiers de sa population, hein, déplacée ou tuée ces 30 dernières années. Aujourd'hui, les images de la capitale vide nous laissent penser que le chiffre annoncé par le porte-parole du Premier ministre arménien est bien vrai. Ce sont probablement plus de 100 000 des 120 000 habitants qui restaient au Karabakh qui ont été déplacés. Donc Ilham Aliyev, le président omnipotent et despotique qui s'adonne par ailleurs à d'immondes chantages sur ses opposants, a réussi à vider totalement un territoire de sa population, tuant au moins 300 personnes sur son passage, mais surtout brisant des dizaines de milliers de vies avec la coupable complicité de l'Union européenne et des Russes, toujours plus enclins à défendre les intérêts des capitalistes que des vies.
Et en continuant, on vous en a parlé la semaine dernière, et quelques nouvelles de la grève dans l'industrie de l'automobile aux États-Unis.
Le 15 septembre dernier, lorsque les conventions collectives sont arrivées à échéance, le syndicat des travailleurs de l'automobile, l'UAW aux États-Unis, a entamé une grève dans 3 usines appartenant aux plus gros fabricants du secteur, General Motors, Ford et Stellantis. Les grévistes réclament 1. Une revalorisation de leur salaire horaire de 40%, chiffre qui correspond à l'augmentation des rémunérations des patrons des trois grosses entreprises ces 10 dernières années. 2. Ils réclament une prise en compte de l'inflation dans le calcul des salaires. Et 3. Revendication très offensive, le passage à une semaine de travail de 32 heures payée 40. Fort d'une stratégie de la surprise qui consiste à avertir au dernier moment du lieu de grève, le syndicat aux manettes, porté par le nouveau président Sean Fain, affirme également un discours de lutte des classes sans ambiguïté, et ça fait du bien. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour que ce mouvement de grève très combatif fasse tache d'huile et devienne historique. Et c'est bien ce qui est en train de se passer, puisque la grève, qui bénéficie d'un large soutien populaire, s'est étendue en une dizaine de jours à une quarantaine de sites localisés dans 20 États différents, en particulier aux centres de distribution et de production de pièces détachées. Et avec près de 400 000 membres actifs dans tout le pays, le syndicat automobile a le pouvoir de paralyser une grande partie de la production et de sacrément bloquer l'économie du pays. Pour donner un ordre de grandeur, une grève d'une dizaine de jours représente déjà 5 milliards de dollars de pertes de revenus pour l'économie américaine. C'est beaucoup. Socialement, la plupart des ouvriers et ouvrières du secteur automobile représentent cette partie du prolétariat qui gagne juste assez pour ne pas toucher d'aide sociale, mais largement pas assez pour faire face à l'inflation généralisée. Cette situation est encore aggravée par les stratégies les stratégies managériales ultra-autoritaires des fabricants, système de rémunération échelonné selon les dates d'embauche, mise en concurrence des statuts entre travailleurs temporaires et permanents, salaires différenciés, etc., etc. À cela s'ajoute une guerre politicienne de récupération du mouvement, car les fameux cols bleus de l'automobile et le soutien de leurs syndicats sont déterminants pour l'issue du scrutin à la présidentielle qui aura lieu en 2024, notamment dans l'état du Michigan, où se trouvent la plupart des usines. Mardi dernier donc, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un président en exercice, Joe Biden, s'est rendu sur un piquet de grève dans le Michigan. Il faut dire que le président américain se trouve dans une position délicate, entre nécessité de soutenir le syndicat pour maintenir une posture électorale favorable et, de l'autre côté, volonté d'éviter un conflit qui se généraliserait jusqu'à menacer l'économie capitaliste américaine. Reste que, pour l'instant, le mouvement de grève n'a pas été récupéré et tous les regards sont aujourd'hui tournés vers les travailleurs et travailleuses de l'automobile aux États-Unis. Si la grève se durcit et devient réellement décidée à la base, elle pourrait bien entraîner plein d'autres secteurs dans une offensive qui pourrait bien, qui sait, être révolutionnaire.
Et on enchaîne avec le National. Sans jingle.
Et au National, on parle d'abord de l'interdiction du port du voile pour les athlètes françaises.
Oui, puisque la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé la semaine dernière que les athlètes françaises ne pourront pas porter le voile lors des JO de Paris en 2024. Sous l'argument de la laïcité, dont on ne sait plus bien ce qu'il veut dire. Il fut un temps où, en tout cas, où la laïcité était basée essentiellement sur la séparation de l'Église et de l'État afin de garantir que chacun puisse choisir ou ne pas choisir une religion et la pratiquer ou ne pas la pratiquer librement. La loi prévoit donc que les représentants de l'État aient une obligation de neutralité. Or, les fédérations sportives sont des organismes privés et les athlètes ne sont pas des agents de la fonction publique. Dans le monde du sport, il n'y a donc pas d'uniformité, mais chaque fédération fait ses choix. En France, on peut faire des compétitions de rugby, de tennis, de handball avec un voile, mais pas au basket ou au foot. En ce qui concerne les fédérations internationales, il est plutôt considéré que la vue d'un voile ne convertit pas automatiquement à l'islam et il est donc autorisé en athlétisme, à la boxe, au karaté, au tennis, etc. Et la FIFA l'a même autorisé en 2014. Alors déjà, avec l'interdiction de l'abaya à l'école, et d'ailleurs celle du voile depuis quelques années, on semble considérer que la seule façon que les femmes aient de s'habiller soit du prosélytisme. Avec la décision du ministère des Sports, pour les JO, on continue dans cette lancée, détournant le principe de la laïcité en excluant de fait des femmes musulmanes de la vie publique.
Et on vous reparle maintenant de la grève à Emmaüs, on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais pour résumer, en juin 2023, il y a un article de Street Press qui annonçait le début d'une enquête de l'Office central de lutte contre le travail illégal sur le système de travail dissimulé et d'esclavage qui avait été mis en place par Anne Singier, directrice de la communauté Emmaüs La Halte Saint-Jean à Saint-André-les-Lille dans le Nord. Début juillet, il y a 21 compagnons sans papier de cette communauté qui se sont mis en grève contre leur exploitation par la Halte Saint-Jean et pour leur régularisation par la préfecture du Nord. Donc on vous invite à lire cet article édifiant de Street Press, mais en gros, Anne Singier à la Halte Saint-Jean faisait travailler des sans-papiers en ne les déclarant pas officiellement comme compagnons et ne payait pas les cotisations URSSAF permettant à la communauté d'avoir l'agrément organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Les compagnons se retrouvaient donc sans assurance maladie, sans perspective de régularisation ouverte par la loi Collomb de 2018 pour les personnes justifiant de 3 années d'activité au sein d'un établissement agréé. Elle leur versait aussi des allocations plus basses que les maigres 350 euros prévus pour les compagnons, les faisant travailler quand ils étaient malades, blessés ou très âgés, leur tenait des propos racistes et faisait réaliser à certains des travaux à son domicile. En août, c'est au tour d'une vingtaine de compagnons sans papier de la communauté de Dunkerque, cette fois, de se mettre en grève, dénonçant aussi un système d'esclavage moderne et des pratiques racistes de la direction. En septembre, une trentaine de compagnons sans papier d'Emmaüs Tourcoing se sont mis en grève, et pas plus tard que ce week-end, les compagnons sans papier d'une quatrième communauté dans le Nord, celle de Nieppe, se sont mis en grève, bloquant l'accès au site et provoquant ainsi un gros manque à gagner, puisque la direction estime que le samedi représente 600 à 700 acheteurs potentiels d'objets récupérés et revalorisés par les compagnons pour, on le rappelle, une allocation de seulement 350 euros par mois. Les trois communautés où s'est étendu le mouvement ont bien l'agrément organisme d'accueil, elles, mais les compagnons dénoncent un système de travail dissimulé, de racisme et de clientélisme qui ne leur permet jamais d'aboutir à une régularisation, qu'on leur fait pourtant miroiter comme possible à partir de 3 ans passés dans la communauté. Les dossiers de certains ne sont pas présentés en préfecture, au prétexte qu'ils ne sont pas méritants, alors que ceux qui acceptent d'effectuer des travaux supplémentaires sur des chantiers extérieurs à Emmaüs voient leurs dossiers proposés en priorité. Ils travaillent près de 40 heures par semaine pour une allocation de seulement 350 euros, et c'est sans parler du système de période d'essai bénévole avant de pouvoir devenir compagnon, qui n'est pas seulement dénoncé à l'Halte Saint-Jean, mais aussi dans plusieurs des 3 autres communautés. Des compagnons souvent âgés et malades sont ainsi non déclarés et touchent une allocation moindre. Les compagnons dénoncent aussi la pression et la vidéosurveillance permanente, la fouille des chambres, l'indignité des conditions d'hébergement, l'impossibilité de s'arrêter de travailler pour maladie sous peine de se voir déduire les jours d'arrêt de l'allocation, ou encore les menaces d'expulsion au moindre retard. En plein débat sur la future loi immigration de Darmanin et sur une potentielle carte de séjour métier en tension, présentée par l'extrême droite comme une mesure pro-immigration de la droite libérale, alors qu'il s'agit d'une mesure supplémentaire d'asservissement des travailleurs sans papier au patronat, c'est une grève historique des travailleurs sans papier faussement bénévoles qui s'étend dans le nord de la France et peut-être bientôt ailleurs.
On continue maintenant au...
local.
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 Et au local, on écoute un petit reportage sur un rassemblement qui avait lieu mardi après-midi devant le rectorat.
Alors pour l'instant, on entame une rentrée assez compliquée puisqu'il nous manque du personnel, notamment un poste de proviseur adjoint, un poste d'infirmier, un poste de personnel de laboratoire, un poste de gestionnaire et aussi un prof de STMS, donc sciences médico-sociales. Là, on se trouve devant le rectorat de Lyon. Eh bien, un petit rassemblement pour demander des moyens supplémentaires pour 3 lycées de l'agglomération. Le lycée Jacques Brel à Vénissieux, le lycée Douaneau à Vanvelin et le lycée Faïs de Villeurbanne. Ces 3 lycées, on a la particularité d'être sur des zones dont les bassins de recrutement en collège correspondent à des collèges qui sont classés REP ou REP+. Or, nous, en lycée, nous ne bénéficions pas de ce dispositif-là. Nous essayons de pallier au mieux au manque de l'institution. Malheureusement, en cette rentrée, le manque de personnel et criant. Donc aujourd'hui, nous avons déposé un préavis et nous entamons donc cette journée de grève. Nous avons des représentants de chacun des 3 lycées que j'ai cités tout à l'heure qui sont en train d'être auditionnés par un membre du rectorat. Si on n'a pas de réponse, on va sûrement programmer une autre journée de grève.
On a eu très très peu d'engagement sur des efforts particuliers pour nos établissements, si ce n'est la promesse d'un groupe de travail interne au rectorat pour réfléchir à la question des redoublants de terminale et éviter une situation où on se retrouve à 37 élèves, comme c'est le cas à Douaneau en ST2S cette année. Nous, on leur a apporté un certain nombre de solutions possibles. Par exemple, une solution assez simple qui consiste à ouvrir une classe supplémentaire quand on veut réduire les effectifs. Hein, voilà, niveau arithmétique, c'est pas trop compliqué à comprendre. Mais apparemment, le groupe de travail va réfléchir à d'autres solutions. Donc ça a été un dialogue quand même assez tendu. On a beaucoup, beaucoup tourné en rond. Et il n'y a eu à aucun moment des réponses véritablement concrètes et satisfaisantes.
Alors, en ce qui concerne Jacques Brel et les postes qui ne sont pas pourvus, et ben, ils font leur possible, mais il s'avère que le métier n'est plus attractif.
Non, ah, c'est
vrai, on s'est fait l'objet d'un groupe de travail au niveau national. Et donc, ils font tout leur possible pour nous trouver une infirmière, un ou une proviseur adjointe, un ou une technicien de labo, un ou une adjointe gestionnaire. Et du coup, ben, si tout va bien, ça devrait arriver. Voilà.
Charge à nos établissements de faire remonter
des nécessités concrètes en termes d'heures manquantes. Donc je pense que ça, c'est la seule petite porte qui a un peu été ouverte à la fin de cette discussion.
Il pourrait y avoir une recension dans les deux établissements. Nous, on l'a déjà fait à Douaneau, ils nous ont accordé 7 heures. Et il y a eu un engagement, là, j'ai posé clairement la question devant l'audience, il y a eu un engagement à étudier les remontées des deux autres établissements en termes de dédoublement, s'il y a des effectifs pléthoriques liés à l'accueil des redoublants notamment. Donc on voit bien quand même que la seule manière d'obtenir des choses concrètes, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
Oui.
C'est se mobiliser.
Absolument.
Et il est probable qu'il faut qu'on continue comme ça d'agir pour les lycées des quartiers populaires, d'agir comme ça conjointement. C'est la meilleure manière finalement d'obtenir des choses que, plutôt que de les demander séparément. Et on accueillera bien volontiers aussi d'autres établissements du même profil, que ce soit à Rieux ou à Vénissieux, Marcel Samba, voire le lycée La Martinière du Cher qui nous a contactés aussi pour essayer de se battre tous ensemble pour que la préparation de la future rentrée se fasse sur d'autres bases. Quoi.
Merci.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info et on est au local.
Et oui, et le travail tue toujours, et à Lyon aussi. Mardi dernier, il y a eu une explosion dans un laboratoire de l'usine Symbio, donc qui est à Vénissieux. Donc un laborantin a été gravement blessé au visage et au torse et au bras. Son pronostic vital était engagé. On n'a pas eu de nouvelles depuis, mais en tout cas, le capitalisme tue toujours, alors restons vigilants.
Et toujours pour parler travail, on parle des piscines.
Oui, après une première grève du 21 juin au 14 juillet cet été, les agents du centre nautique intercommunal Vénissieux, Saint-Fons et Lyon ont repris la grève le 4 septembre et sont toujours en grève depuis pour la hausse de leur salaire. La hausse demandée représente 46 000 euros, ce qui n'est pas une très grosse somme pour les trois communes impliquées. Mais pour l'instant, seule la hausse des tickets restaurants est à l'ordre du jour côté direction. La lutte continue donc pour les agents des piscines en grève. Et on leur souhaite bon courage.
Et on continue toujours au local avec un dernier reportage.
Oui, cette fois c'était jeudi. Il y avait un rassemblement pour la journée internationale de lutte pour le droit à l'IVG.
Non. Eh bien, on est le 28 septembre. Et c'est la journée mondiale de lutte pour le droit à l'avortement. Donc le collectif pour les droits des femmes a appelé en rassemblement aujourd'hui, donc à 18h, place de la Comédie. Donc on est à peu près 1000 personnes à être passées aujourd'hui.
Nos corps, nos choix, et ferme ta gueule. Nos corps, nos choix, et ferme ta gueule.
Nous souhaitons disposer librement de nos corps et choisir pleinement comment nous apparaissons dans l'espace public. Nous dénonçons la récente interdiction des abayas dans les établissements scolaires, un processus raciste, sexiste et contraire à nos principes démocratiques.
Oui, nous voulons choisir de poursuivre ou non une grossesse. Oui, nous voulons choisir les méthodes d'interruption volontaire de grossesse qui nous correspondent le mieux.
Nous voulons pour toutes et tous un accès à un personnel soignant formé, féministe, qui respecte le consentement et la diversité des corps et des situations. Un accès à des structures hospitalières et médicales de proximité où l'on peut bénéficier de soins de manière inconditionnelle, anonyme si on le souhaite, avec de l'écoute et du respect. Nous voulons pour toutes et tous un accès à l'information et à la contraception libre et gratuite, avec une réelle diversité de méthodes et de choix, un allongement du délai légal actuellement de 14 semaines de grossesse en France. Nous voulons que le droit à l'IVG soit enfin inscrit dans la Constitution. Nous voulons que cet acte symbolique soit accompagné de moyens véritablement sanctuarisés. Nous voulons que les actions des anti-choix soient fermement condamnées et que partout soit contrée leur propagande sexiste et misogyne.
À cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG, on a assez, assez, assez de cette société.
C'est un scandale qu'en Italie, l'extrême droite au pouvoir restreigne encore les libertés des femmes et des minorités de genre. Que soit imposé par la loi un délai de réflexion de 7 jours. Que près des 2/3 des médecins refusent explicitement de pratiquer des IVG. Et certaines régions, comme la Sicile ou les Abruzzes, n'est qu'à aucune gynéco sur 5 qui accepte de pratiquer des IVG. C'est un scandale. Ça malte. L'IVG ne soit autorisé qu'en cas de danger pour la personne enceinte et non viabilité du fœtus. C'est un scandale qu'en Pologne, 6 femmes sont mortes depuis le durcissement de la loi sur l'IVG en Pologne en 2021. C'est un scandale qu'aux États-Unis, pays le plus riche de la planète, l'avortement ne soit plus garanti dans de nombreux États, renforçant les inégalités sociales et raciales. C'est un scandale qu'aujourd'hui, encore 24 pays interdisent totalement l'avortement. 40 000 femmes meurent chaque année des suites de tentatives d'avortement clandestins encore aujourd'hui. Les anti-choix, ces personnes qui se prétendent pro-vie, portent en réalité partout dans le monde la responsabilité de la mort. Face à ces réactionnaires, crions notre colère, crions notre solidarité internationale, crions notre détermination à obtenir et à concrétiser les droits reproductifs et sexuels pour toutes et tous.
Et nous, nous sommes un collectif latino, Parchadex, collectif féministe latino en Lyon. Et on vient ici à représenter ou à donner des voix à les latinos qui résident en France, mais aussi à les gens qui sont là-bas. Parce qu'il faut avoir la conscience de classe et c'est vrai que peut-être on a la possibilité de vivre ici, on a des accès à ces informations, et des autres situations qu'on peut te bénéficier ici, mais pas là-bas. Donc on ramène la voix de nos sœurs d'Amérique latine ici en France pour qu'ils soient aussi entendus pour le monde.
Nous pouvons vous donner un chiffre. Sur 33 pays, dans 5 pays seulement, nous avons accès à l'interruption volontaire des grossesses. Il y a très peu de pays en Amérique latine où il existe la dépénalisation et l'interruption volontaire des grossesses, et seulement dans 3 situations extrêmes, les dangers pour la vie de la femme, la non-viabilité du fœtus ou la grossesse due à un viol.
Cette grossesse, elle n'en voulait pas, elle a décidé d'avorter, c'est son choix. Que cela soit légal ou pas, qu'il arrêtera. Avoir un droit de là, ce n'est pas une affaire de loi. Cato, macho, facho, ce corps là, n'y touchez pas, il est à moi.
L'humanité sur nos épaules et nous n'avons pas peur. Nous menons cette bataille encore et encore. Plus d'avortements solitaires, plus d'avortements dangereux, plus d'avortements clandestins. Arrêtons la violence, la stigmatisation et les maternités forcées ou imposées. Nous allons toujours vers la reconquête de ce qui nous appartient depuis toujours. Nous, les femmes migrantes, défendons notre droit à vivre dignement. Éducation sexuelle para decidir, anticonceptivos para no votar, aborto legal para no morir. Por votre ampleur féministe.
Vous êtes toujours sur Radio Canul 102.2, c'est le Canul Info du lundi 2 octobre et on vient d'entendre un petit reportage sur le rassemblement de jeudi pour la journée mondiale de lutte pour le droit à l'avortement. Et on a entendu notamment deux collectifs féministes latinos, le collectif Parchadox avec XS à la fin que vous pouvez trouver sur Instagram et Facebook. Et le collectif Complot Feminista que vous pouvez trouver aussi sur Instagram. Et on passe maintenant à nos interviews.
Voilà, donc on va accueillir d'abord nos premiers invités qui sont militants, militantes à l'UNEFTACL, Willy et Marie. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Alors vous venez nous parler de ce qui, j'ai l'impression, devient un peu notre marronnier de la rentrée pour septembre-octobre. Vous venez nous parler des sans-fac. Est-ce que on peut commencer par faire un petit retour historique sur les raisons de cette campagne qui revient chaque année maintenant?
Ouais, tu fais bien de dire marronnier puisque c'est pour la 5e fois consécutive qu'on mène cette campagne sur Lyon. C'est une campagne qui a plusieurs objectifs. Pragmatiquement, localement, c'est d'obtenir des inscriptions pour les personnes qui font le choix de s'organiser au sein du collectif des sans-fac et qui considèrent que c'est pas normal en fait qu'il n'ait pas eu d'inscription à l'université. Et c'est aussi une campagne qui est menée au niveau national, dans d'autres villes, d'autres universités, et qui porte la vision en fait d'une université qui serait émancipatrice, gratuite et ouverte à toutes et tous, et pas fermée, chère, comme le veulent les gouvernements successifs, et qui défendent en fait une université qui a une place toute particulière dans le marché du travail. Et voilà, c'est une campagne aussi qui est menée contre la sélection à l'université de manière générale.
Et puis en fait, sur le point de vue historique, ce qui s'est passé, c'est que depuis 50 ans, on a eu de plus en plus d'étudiants à l'université, et au bout d'un moment, ça ne répondait plus du tout aux besoins du marché du travail, aux besoins du patronat, et du coup, on a eu de plus en plus de nouvelles lois, de nouvelles mesures qui allaient dans le sens d'une sélection à l'université. Ça passait au début par tout simplement des classements d'université pour les mettre en concurrence, et puis on a eu le droit surtout à un manque de budget progressif, c'est-à-dire qu'on augmentait le nombre d'étudiants sans augmenter les budgets. Donc concrètement, les conditions d'études se sont dégradées. Et puis le point vraiment charnière, ça a été évidemment la loi Or de 2018 qui a ancré et qui a vraiment marqué le début des plateformes de sélection. On pense évidemment à Parcoursup. Et puis depuis chaque année, il y a de nouvelles plateformes. On pense récemment à Mon Master, mais avant, il y en avait e-candidat. Puis on peut penser aussi à des plateformes un peu plus hybrides, mais comme Campus France, où toutes ces plateformes-là, en fait, elles vont vraiment officialiser, structuraliser la sélection. Et en fait, c'est chaque année, nous on le constate, hein, chaque année, comme disait Woody, ça fait 5 ans qu'on mène cette campagne-là. Chaque année, on a de plus en plus d'étudiants, et chaque année, c'est les mêmes profils. C'est que c'est de plus en plus un tri social qui est profondément injuste, avec des profils d'étudiants qui sont souvent étrangers ou origines d'immigration, des étudiants qui ont des parcours pas linéaires parce que problèmes de santé ou problèmes familiaux dus à plein de critères très différents. Mais en fait, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve, nous, dans la campagne Sans Fac. Et il est essentiel pour nous de rappeler que cette réforme, cette sélection, elle est avant tout raciste et qu'elle discrimine toujours les mêmes et que c'est un tri social profond qu'on fait.
Oui, du coup, tout à fait. Et vous avez mentionné le fait que ça fait 5 ans que vous menez cette campagne, puisque chaque année maintenant, il y a des gens qui restent à la rentrée sans fac. Et donc, chaque année, vous luttez. Et j'ai l'impression que chaque année, vous gagnez quelque chose, même si ça règle jamais le problème. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de l'année dernière ?
Oui, ben en fait, la campagne sans fac, nous, on l'amènera jusqu'à l'obtention de toutes les inscriptions, mais aussi jusqu'à la remise en question profonde de la sélection. Et en fait, l'année dernière, c'était un peu similaire. On avait eu le même nombre de dossiers, de personnes, des mêmes cas, de personnes qui avaient été refusées. Et on avait eu droit à plusieurs rendez-vous avec la présidence, des rendez-vous qui étaient restés pour la plupart toujours sous un ton assez méprisant. Et donc, on était venu à occuper les bureaux de la présidence pendant une semaine. Donc pendant une semaine, on avait gêné le fonctionnement de l'université pour lui rappeler que ces étudiants-là étaient dans une grande détresse et que nous, on voulait une solution maintenant. Et en fait, par ce rapport de force, on a réussi à obtenir à la fois l'inscription d'une trentaine de 100 facs, mais aussi et surtout pour nous, ce qui est très important, c'est l'obtention d'une procédure d'exonération pour tous les étudiants étrangers qui subissaient la réforme raciste Bienvenue en France. Alors, tout petit rappel, Bienvenue en France, c'est une réforme qui avait été votée en fait en 2018 aussi par l'État, qui disait que les étudiants étrangers hors Union européenne devaient maintenant payer 2 770 € pour une seule année de licence. Et en fait, chaque université était plus ou moins libre de l'appliquer ou non. Et Lyon 2 avait jusqu'à présent refusé en disant, en reconnaissant que c'était une discrimination. Puis l'année dernière, hop, changé d'avis, il l'avait appliqué. Nous, on a dit non, on refuse ça. Et par cette mobilisation, aujourd'hui, tous les étudiants étrangers, ils peuvent demander une exonération. Et donc, on a eu ces deux victoires-là. Et en fait, à partir de là, nous, on était très satisfaits de ça, mais il restait quelques cas. Et là, en fait, la présidence nous a envoyé des CRS sur la fac. Elle a profité qu'on soit un week-end et que du coup, les autres étudiants n'étaient pas là pour se cacher derrière ça. Et elle a envoyé 70 CRS virer des étudiants d'une occupation pacifique sur un campus, quoi. Donc ça traduit bien la mauvaise foi aussi à cette présidence de gauche. Et comme on rappelle qu'il y a de nombreux paradoxes.
Oui, ça, on l'a remarqué, on le remarque chaque année. Donc, l'année dernière, vous avez obtenu des choses. Qu'est-ce qu'il en reste cette année ? Alors, est-ce que la procédure d'exonération, elle est toujours en cours cette année ? Et qui sont, parce qu'en fait, il faut recommencer le combat, j'ai l'impression quand même, qui sont les personnes qui restent sur le carreau, là, à cette rentrée ?
Oui, alors, la procédure d'exonération, elle est toujours d'actu. Cependant, il a fallu faire un petit reminder à la présidence parce que, étonnamment, sur le site de l'université, la procédure d'exonération était difficilement trouvable, voire pas du tout présente. Mmh. Et les infos étaient difficilement assimilables, surtout pour des étudiants étrangers qui sont un peu dans le rush de l'installation en France, etc. Le centre d'inscription ne prenait pas du tout en charge, en tout cas pas correctement, les demandes concernant la procédure d'exonération. C'est nous qui faisions un peu le taf d'expliquer comment ça fonctionne, etc. On a dû guider pas mal de camarades sans fac à travers ces méandres un peu administratives.
Donc rien n'est jamais acquis, quoi.
Voilà, il faut en tout cas bien rappeler comment ça s'est passé l'année dernière, quoi. Mais c'est une victoire qui reste. Par ailleurs, j'en profite, l'application de Bienvenue en France, la présidence effectivement l'avait refusée au début et aujourd'hui en fait elle s'en dédouane, elle dit que c'est le ministère en fait de l'enseignement supérieur l'a un peu forcé, etc. Je pense pas que ça soit vrai déjà, et puis en plus de ça, qu'est-ce qui t'empêche de faire une procédure d'exonération d'emblée en fait qui serait déjà un peu plus juste? Il a fallu une semaine d'occupation des bureaux, mais bref. Sur les différents cas de sans fac les profils en fait qui sont laissés sur le carreau, la sélection elle est multiforme et il y a des cas qui sont assez variés. Par exemple, je suis certes militant à l'UNEFTACL mais aussi sans fac cette année, quoi. J'ai demandé un master pour enseigner l'histoire, un master MEF histoire, et on m'a débouté en L3 d'histoire. C'est la troisième fois que je suis non sélectionné à la fac et la troisième fois que ça me rajoute des années, etc. Ma situation, moi, perso, c'est que j'ai 24 ans, je suis assez précaire, j'ai perdu ma bourse, etc. Donc c'est assez urgent pour moi de bosser. Je considère moi-même, quand on est dans cette situation-là, que c'est une situation un peu d'urgence, quoi. Pour autant, c'est la pire des situations de sans fac. On a des réfugiés qui ont fui leur pays parfois sous les bombes. On a un couple russo-ukrainien qui fuit la guerre en Ukraine et qui demande qu'à apprendre le français pour pouvoir s'intégrer, etc. On a des cas en fait de personnes qui sont en danger dans leur pays du fait de leur orientation sexuelle, par exemple, qui sont vraiment en danger là-bas. C'est avéré, c'est compliqué, y a des tensions familiales, etc. Donc il y avait une urgence pour ces personnes-là à aussi venir en France, et c'est aussi l'université, quoi. Il y a des personnes qui sont sans papier, qui travaillent au noir pour avoir une situation décente, etc. Il y a des titres de séjour qui sont en jeu, c'est tout plein de cas vraiment dans des situations qui sont innommables, quoi. Et puis même sans ça, on se battrait pour n'importe qui, quoi, parce qu'on considère que à partir du moment où tu as eu un baccalauréat, tu as accès à une licence, tu dois avoir accès à un master si tu as une licence, etc. C'est un truc qui s'appelle le droit de poursuite d'études et qui est complètement bafoué aujourd'hui en France.
Puis je voulais juste ajouter qu'aussi on a des cas beaucoup de multi-candidatures. Ça, c'est de pire en pire chaque année. C'est que typiquement, on a beaucoup d'étudiants qui demandent une L1 psycho. Et en fait, ça fait 3 années de suite qu'ils font une licence de dépit et qu'ils attendent de reconditer en psycho. Seulement, en fait, ils ont déjà eu leur bac. Ils ne vont pas avoir 3 fois le bac. Donc, ces étudiants-là, et on leur dit, tente la prochaine année. Mais on a des gens qui ont attendu 3 fois de suite les années psycho. Et ça, il faut mettre aussi face à ces contradictions-là qui sont totalement absurdes. À partir de comment tu te sors de cette situation-là si tu veux faire psycho, quoi. Voilà, c'est plein de cas très différents, mais toujours le même problème qui est central.
Oui, surtout que tout le monde n'a pas les moyens de rester étudiant indéfiniment et d'aller à la fac pendant des années. Alors, vous avez mentionné que votre campagne, elle se déroule sur 2 fronts, en fait, à la fois nationalement pour militer, pour en fait qu'il y ait plus de moyens dans l'université, pour qu'il y ait des réouvertures de places et que tout le monde puisse aller à l'université, et aussi donc localement, du coup, pour négocier un peu au cas par cas des inscriptions à Lyon. Vous en êtes où là dans vos discussions avec la présidence?
Alors en fait, déjà, dans les discussions qu'on a eues, c'est qu'on a remarqué qu'ils prétendaient vouloir éviter une situation de crise comme il y a eu l'année dernière. Mais face à ça, on a quand même surtout beaucoup reçu du mépris et beaucoup, beaucoup de négligence. Dans le sens où on nous a dit, on veut éviter une situation de crise, mais on n'acceptera pas vos dossiers. Donc ça, c'est assez exemplaire du comportement qu'a la présence d'université face à la campagne sans fac. Et puis en fait, assez concrètement, là, on a eu 4 rendez-vous avec cette présidente, avec la vice-présidente et directeur de cabinet de la fac.
De Lyon 2, je ne sais pas si on l'a précisé depuis le début.
Et vis-à-vis de ça, on a eu extrêmement peu de réponses. On a eu aucune réponse quasiment, une ou deux personnes. Et donc on avait décidé d'envahir le dernier rendez-vous qu'on avait eu avec eux, ils n'avaient pas été contents, mais on sentait que ça a été un peu un moment qu'ils ont rendu compte qu'on était, nous, très impliqués. Puis après, on a pu faire voter en conseil d'université une motion qui parlait des cas et qui devait permettre, qui avait engagé un peu ce conseil-là à prendre en considération le cas de ces 100 facs-là. Et à partir de là, on a organisé une date de mobilisation nationale. Le 19, c'était une date qui était appelée un peu partout en France. Et donc, on a organisé une manifestation qui partait du rectorat et qui finissait à la fac de Lyon 2. Et donc, c'était un moment aussi pour revendiquer le fait que c'était un souci général. Et à partir de cette manif-là, on nous a dit « Non, on refuse tout autre rendez-vous ». La présidence a voulu couper le dialogue en nous disant « Oui, vous n'êtes pas assez... ça a été trop, vous avez eu des comportements soi-disant violents, alors qu'en fait la seule violence ici c'est celle qu'elle impose envers tous ces étudiants là et du coup c'est à partir de ce cinquième de ce refus de rendez-vous d'une semaine qu'on a pris une autre stratégie.
Ouais, la présidence en fait avait coupé le dialogue effectivement en disant qu'on était violent, etc. Je pense qu'on n'a pas l'exacte même définition de la violence. Pour nous, la violence ici elle est surtout institutionnelle dans le racisme de cette sélection et même la sélection de manière globale quoi. La présidence nous reprochait ces comportements de soi-disant violence en disant qu'elle voulait un dialogue apaisé, etc. Nous, on a bien joué la carte du dialogue apaisé pendant 4 rendez-vous, après 3 semaines de cours déjà. En fait, c'est simple. On aurait pu continuer dans cette voie-là si on avait eu des gages, si on avait eu des inscriptions, etc. Il faut bien comprendre par ailleurs qu'on mettait en avant les cas de dossiers sans fac qui étaient particulièrement urgents, quoi. Les cas qu'on a évoqués où il y a des titres de séjour qui sont en jeu, etc. En fait, on n'avait rien eu. Rien eu du tout, alors que typiquement il y a une personne qui était sans papier qui demandait L1, lettres modernes ou lettres classiques, qui sont pas du tout des filières bouchées, etc., et qui n'était pas inscrite, quoi. Donc si la présidence avait daigné considérer un peu les sans fac, on aurait continué dans cette voie là seulement elle ne l'a pas fait, et ça c'est de sa responsabilité. Donc on s'est retrouvé avec un dialogue coupé, effectivement, une présidence qui nous a envoyé un mail assez incendiaire en disant qu'on était violent, etc. On a répondu bien sûr à ce mail, et la présidence de Lyon 2 ensuite ne répondait plus à nos mails durant plus d'une semaine, alors qu'elle avait elle-même proposé un échéancier de rendez-vous, etc., pour faire avancer la situation des 100 facs, et le cinquième rendez-vous en fait n'a jamais eu lieu du coup de leur fait. Alors que même qu'il y a une détresse assez grandissante chez les sans fac, etc., comme je l'ai dit, quand on est dans cette situation là c'est franchement pas rigolo, quoi. Donc semaine dernière, le mercredi, on a décidé d'aller chercher des choses avec les dents, quoi. On a tout simplement envahi les bureaux de la présidence, pas vraiment ses bureaux, parce qu'elle a changé de bureau entre temps, parce qu'elle a pris peur lorsqu'on a terminé notre manifestation au sein de l'université. Et donc les bureaux de la présidence actuellement sont complètement sous clé, elle a complètement changé de bâtiment, enfin elle est allée dans le bâtiment en face, quoi, en se disant qu'on les retrouverait pas. On les a quand même retrouvés, on a envahi donc ces nouveaux bureaux là, et après une discussion un peu véhémente d'une heure slash un débat, quoi, on a obtenu, en menaçant de rester sur place, une commission d'étude des dossiers, qui est donc un rendez-vous avec la présidence mais également toutes les composantes de l'université, ces différentes UFR, et on espère que ça va faire avancer les dossiers de 100 facs, etc., et confronter directement les directeurs de département de la fac pour qu'ils nous opposent en fait leurs arguments en face à face, quoi. On se fait pas trop d'illusions, dans le sens où on pense pas que ça va régler l'entièreté des cas sans fac, mais potentiellement que ça va avancer un peu la chose, quoi. Et bah, par ailleurs, à cette occasion, ça c'est jeudi, et on appelle à un rassemblement jeudi à 11h30 pour 10h30. Soutenir... À 10h30, pardon, 10h30.
C'est pas
tard. Je l'ai noté, c'est vraiment my bad quoi. Donc, rassemblement jeudi 10h30 pour soutenir la délégation qui sera en face en fait, de cette commission d'études des dossiers. Voilà,
ok, le rassemblement augmenter... c'est où devant...
C'est sur le campus Berge du Rhône, le campus des quais de Lyon 2, en cour centrale. Voilà, c'est la grande cour qui est en plein milieu du campus. Voilà, je termine en précisant que, bon, effectivement, l'année dernière, il y a eu une occupation d'une semaine. C'est pas du tout notre délire hein, d'occuper. C'est pas marrant. Voilà, mais nous aussi, on aimerait bien éviter cette situation de crise qu'est l'occupation des bureaux de la présidence. Maintenant, ça dépend d'elle, quoi. Voilà, et c'est pas impossible, mais c'est pas du tout ce qu'on désire. Et on a déjà eu des campagnes sans fac qui ont été gagnées sans occupation. On espère que ça sera le cas à nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut être présent et mettre la max sur la commission d'études des dossiers pour éviter ça.
Voilà. Voilà, et du coup, donc je rappelle, c'est jeudi à 10h30 sur le campus Berge du Rhône, dans la cour centrale, pour soutenir les personnes qui sont en délégation en train de négocier. Voilà, on va mettre, je crois, une petite musique avant de passer à notre deuxième interview. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On écoute tout de suite Miss Keta avec son morceau Pitaska.
Dice che sono pazzasca, a stare il fascino della tedesca. Vuole uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa. Dinamite nella sua tasca. Quando arriva mi schietta in pista, finalmente la situa inizia. Pazzasca. Dale dale oh, dale dale oh, dale dale pazzesca. Sella di Dior, cavalco rococò. Per me Versace religione, diffonde nel verbo una missione. 007, un Goldfinger da shock. E se finisce il buffet, che mangino la mia brioche. Flash, lo so che piace Pash. Ehi, ciao, uno sguardo effetto al mio ex. Mi uccido col veleno, moderna Cleopatra. Fly me to the moon, my Frank Sinatra. Pazzesca.
Monta sulla Porsche perché sei pazzesca. Sei la più figa delle case Jessica. Butta via la Gucci parallela. Te ne compro una vera. Sei la favola della favela. Tuo fratello vuole fare il gangster. Stasera non vuole che tu esca. Gli riempio la nasca, fa un'eccezione. Sono il papa per definizione. Trappate sempre soldi ma siete poveri. E le fighe su Insta dal vivo Moby Dick. Sali sull'incrocio, dammi la merce, scendi a quello dopo. In mano c'ho il globo, sei capa sul lobo. Sai che non mi schiodo. Da queste bici sfotto sempre Bonobo. Vuoi fare scena? No, hai problema. So che ti piace il basso, la Jeep trema.
Après avoir écouté Pazzesca de Miss Keta, on passe maintenant à notre deuxième interview. On va parler cette fois-ci du démantèlement de Fret SNCF en cours avec Agathe Cheminotz. Peut-être, Agathe, est-ce que tu peux commencer par te présenter toi, ton syndicat et ton secteur d'activité?
Oui, bonsoir. Donc, effectivement, je travaille... À la SNCF, je suis cheminote, je suis
syndiquée à la CGT cheminot également. Alors la SNCF, pour beaucoup de gens, c'est les TER, c'est les TGV, c'est le transport de voyageurs, les coraux et les corails, etc. Mais pas seulement, il n'y a pas que des trains de personnes, il y a aussi des trains de marchandises qui circulent tous les jours et qu'on voit passer aussi en voyageurs. Donc c'est des trains d'acide chlorhydrique, des trains de cailloux, des trains de voitures aussi, on transporte vraiment de tout. Et donc voilà, le fret ferroviaire ferroviaire. Ça a d'ailleurs été la première activité ferroviaire de toutes les compagnies ferroviaires au début. Ça a d'abord été inventé pour transporter de grandes quantités de matières, également dans le militaire, d'ailleurs, accessoirement. Voilà. Petit à petit, la tendance est inversée. Hein. Le voyageur a pris le dessus au niveau de l'importance dans l'activité du ferroviaire. Mais le fret ferroviaire existe encore. Et aujourd'hui, il essaye d'exister, en fait.
Oui, il existe peut-être plus pour longtemps. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette menace de liquidation qui pèse sur fret SNCF et surtout nous expliquer en quoi cette liquidation elle est liée à la Commission européenne ?
Alors Fret SNCF, c'est une partie de la SNCF et Fret SNCF a été victime, enfin pas directement, c'est l'État français qui a été victime de. Enfin, on a déposé des plaintes contre l'État français, ce sont nos concurrents, puisque le fret ferroviaire a été ouvert à la concurrence en 2006. Donc depuis 2006, ce ne sont plus que des. Il y a d'autres locomotives que les locomotives vertes de Fret SNCF que vous pouvez voir passer avec des trains de fret. Il y a des concurrents allemands privés, filiales d'autres entreprises qui sillonnent le territoire français maintenant depuis 2006. Et donc ces concurrents ont porté plainte contre l'État français pour aide illégale versée à Fret SNCF, dont il est l'unique actionnaire, entre 2009 et 2019, donc jusqu'à très récemment. Ça s'élève à 5,3 milliards d'euros. Et donc ces aides seraient illégales selon eux. La Commission européenne a ouvert une enquête le 19 janvier dernier et selon les résultats de l'enquête, Fret SNCF pourrait être amené à devoir rembourser ces 5,3 milliards d'aides à l'État français. Cet argent, nous ne l'avons évidemment pas. Puisque il a été fait pour accompagner Fret SNCF dans l'ouverture à la concurrence qui n'a pas été décidée par les cheminots. Hein. On ne passe pas d'une entreprise qui n'a pas véritablement de bilan financier et à qui on ne demandait jusqu'à 2006 que de transporter le plus de volume possible. On ne passe pas d'un profil d'entreprise comme ça à une entreprise rentable, ultra optimisée à la Startup Nation. Non, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc oui, il a fallu plusieurs années pour que on devienne l'entreprise de leurs rêves entre guillemets. Et il a fallu renflouer Fret SNCF à de nombreuses reprises. Il faut quand même signaler que si ça n'avait pas été le cas, il y a énormément d'entreprises qui se seraient retrouvées sur le carreau au niveau de leurs approvisionnements en matières premières et en produits finis, que la route n'aurait absolument pas pu supporter ça. Donc c'est pas comme si c'était illégitime, puisque Fret SNCF avait un seul actionnaire, à savoir l'État français. Jusqu'à présent, dans le néolibéralisme, c'est autorisé de renflouer son entreprise. Et ça aurait mis énormément d'entreprises, sans parler des salariés qu'elles emploient, dans la mouise. Donc ils viennent pas de n'importe où, c'est 5,3 milliards d'euros, et voilà. Donc pourquoi c'est lié à la Commission européenne.
Du coup, si je comprends bien, si les aides et ces renflouements de la part de l'État sont effectivement déclarés illégales, c'est Fret SNCF qui est contraint de rembourser ces aides et en gros, ça mettrait toute la filiale en faillite.
Absolument, c'est ça.
Et
Oui.
Et en réponse à ça, du coup, de l'ouverture de cette enquête par la Commission européenne, le gouvernement français a proposé une fausse bonne idée, une réponse, un scénario de discontinuité. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Et pourquoi ça s'apparente à des techniques un peu pas cool?
Le scénario de discontinuité, ça s'apparente à la magie, je dirais. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de nous faire croire, parce qu'il faut quand même préciser que le plan de discontinuité qui est proposé par Clément Beaune n'a absolument aucune garantie de sauver ce qu'il restera à sauver face à la Commission européenne. La Commission européenne n'a pas rendu ses conclusions. Une enquête de la Commission européenne, ça dure 18 mois et non pas 6. Et pourtant, au bout de 6 mois, on nous a fait croire, cela dit, ça a été dans la communication de l'entreprise, on nous a dans un premier temps fait croire que raconter, en tout cas, parce qu'on n'y a pas cru tout de suite, on perd légèrement la foi en eux, que si on fait le plan de discontinuité. Alors on est sûr qu'on nous laissera tranquille. Que nenni, c'est un pari, c'est un coup de poker, un de plus qu'on demande aux salariés de supporter après des années et des années de réorganisation, de souffrance. Il faut quand même savoir que la discontinuité, on baigne dedans depuis 10 ans, puisqu'on est quand même passé de 10 000 salariés à 5 000 aujourd'hui. C'est énorme comme hémorragie. Ça s'est vraiment fait dans la douleur. On a eu des épidémies de burn-out. C'est vraiment les cheminots qui ont payé le prix de tout ça. Et donc, comme si c'était pas assez discontinu comme ça, on nous propose maintenant une série de mesures qui feraient que l'entreprise, à la sortie de ce plan-là, n'aurait plus rien à voir avec l'entreprise qui a touché des aides pendant 10 ans. Et donc, il serait impossible à la Commission européenne de lui demander le remboursement de quoi que ce soit. Voilà, et donc c'est de la magie parce que on voit mal quand même comment on pourrait se dire que cette entreprise n'a plus rien à voir. Donc en quoi est-ce que ça serait discontinu? Eh ben, on continue évidemment à décrécer, hein, puisque ça s'accompagnerait de saigner fret SNCF de 10% de ses effectifs, 20% de son chiffre d'affaires, puisque il s'agirait pour fret SNCF d'abandonner gentiment à la concurrence les trafics de ce qu'on appelle le combiné. Donc le combiné, c'est les caisses mobiles, soit les caisses que vous voyez, les remorques de camions, soit les containers qui peuvent également prendre le bateau, c'est de l'intermodal. C'est ce qu'il y a de plus rentable et ce qu'il y a aussi de plus intéressant à produire, c'est de la très longue distance. Le fret ferroviaire, c'est intéressant sur les très longues distances. Et donc on se séparerait de tout ça, ça représente aussi 30% de notre volume de marchandises transportées. Nous léguerions aussi la gestion d'une halle logistique que nous avons à Saint-Priest et qui permet aussi de faire de l'intermodal cadeau, hein, ça on ne sait pas trop d'où ça vient exactement. Autre discontinuité, l'ouverture du capital au privé, dont évidemment on nous jurait cracher que ça n'arriverait jamais après la réforme de 2018. Sachant qu'on a aussi une réorganisation en interne qui va également toucher 10% de nos effectifs, donc là voilà, c'est et on ne s'appellera plus fret SNCF, hein. On n'aura plus le droit de s'appeler fret SNCF. Là, ce qui plane comme nom, c'est New Fret. Et au 1er janvier 2025, ça voudrait donc dire que l'intégralité des effectifs qui aura été rescapé de cet écrémage sera automatiquement transféré dans une entreprise qui ne sera plus SNCF. Nous, on a signé pour travailler à la SNCF et sans avoir rien demandé, après avoir fait 10 ans d'efforts et clairement en avoir chié, ben on va se retrouver avec, enfin, travailler clairement pour le privé, en fait. Voilà.
Mais du coup, casser fret SNCF, c'est vraiment dans la continuité de toutes les attaques que subit la SNCF en termes de privatisation, de mise en concurrence, etc., etc. Est-ce que tu peux mettre un peu en perspective ce dernier plan-là?
Clairement, c'est une conséquence quasiment directe de ce qui s'est passé en 2018. En 2018, une certaine ministre des Transports, prénommée Elisabeth Borne, a fait passer ce qu'on appelle le quatrième paquet ferroviaire et qui a acté l'éclatement de la SNCF en quatre sociétés anonymes, alors qu'auparavant, c'était un établissement public et industriel et commercial. Et notamment, ça a aussi acté l'ouverture à la concurrence du voyageur. Et donc, ce qui est en train d'arriver à fret SNCF va également se profiler dans le voyageur. C'est déjà le cas, hein, puisque vous avez sans doute entendu qu'au niveau du TER, il y a des régions qui ont d'ores et déjà décidé de confier leur transport de voyageurs à d'autres opérateurs, des opérateurs privés. On pense à Transdev chez Éric Ciotti, la région socialiste de Bourgogne-Franche-Comté a également voté l'ouverture à la concurrence. Ça arrive un peu partout. Hein, Laurent Wauquiez aussi est dans les starting blocks pour se débarrasser de la SNCF au niveau régional. Il y a aussi ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la création d'un groupement d'intérêt économique, un GIE, qui regrouperait toutes les fonctions qui ne sont pas strictement ferroviaires à la SNCF. La SNCF, c'était une entreprise qui était intéressante, notamment parce qu'on pouvait y faire beaucoup de choses différentes tout en restant à la SNCF. Il y a une partie d'immobilier, il y a aussi les services médicaux, il y a l'agence paix et famille, et bien tout ça qui ne touche pas directement à de la gestion de conducteurs, de sillons, de locomotives, de transports, etc., serait regroupé dans un groupement d'intérêt économique qui aurait ensuite vocation à travailler pour d'autres entreprises. Donc là, on assiste vraiment à l'éclatement pur et simple de la SNCF. Il y a encore des gens qui pensent la SNCF, mais c'est qu'une question d'année pour que ça n'ait plus aucun sens de dire cela.
Et face à cette attaque du coup contre Fret SNCF, les syndicats ont essayé de se mobiliser. Est-ce que tu peux faire revenir sur la tentative de grève de la semaine dernière et peut-être annoncer les prochaines dates?
Alors oui, le dernier mouvement a eu lieu, donc la dernière journée a eu lieu le 26 septembre, c'était mardi dernier. Malheureusement, on a pu constater que la participation était très très en dessous des enjeux. Il faut croire que toutes les tentatives de séparer, de cloisonner les activités ont porté leurs fruits, et ça, je me souviens que Besancenot avait dit en 2018 qu'il s'était passé la même chose à la Poste et que ça avait marché d'enfer. Ben oui, ça marche d'enfer. Cela dit, je vois beaucoup de similitudes entre ce qui se passe à l'échelle de la SNCF et à l'échelle du pays, c'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui sabotent leur entreprise et leur pays, qui inflige avec une grande brutalité, une grande violence, d'un côté des réformes à coup de 49-3, de l'autre côté des réorganisations sans prendre en compte les salariés. On a la même façon aussi de cadrer les négociations avec les syndicats pour parler de tout sauf des enjeux. D'un côté, c'est ce que veulent les citoyens, de l'autre côté, c'est ce que veulent les cheminots. Mais je me dis aussi que quand il y aura une prise de conscience collective par rapport à ce qui est en train de se passer, y a tout qui se débloquera d'un coup et ça sera un vrai raz-de-marée. C'est ce que j'espère.
Merci Kat. Et on passe maintenant à notre traditionnel agenda.
Il n'y a pas de jingle, il ne faut pas attendre un jingle. Oui, alors d'abord, pour l'annoncer, demain s'ouvre le procès des arrêtés du 8 décembre de l'année dernière. Donc si vous êtes à Paris, il y a un rassemblement à 12h devant le TGI, c'est Porte de Clichy. Pour rappel, ce sont des militants qui ont été enquêtés puis arrêtés avec les moyens de l'antiterrorisme, alors même que finalement ils ne sont accusés d'aucun projet qu'on pourrait qualifier de terroriste. Et l'enjeu de ce procès est essentiellement de créer un amalgame entre le terrorisme et le militantisme de gauche, donc pour après pouvoir utiliser le cadre législatif qui à la base avait été soi-disant développé pour lutter contre les actes terroristes qu'on a vécu en France il y a quelques années. Ensuite, à Lyon, un autre procès, si vous voulez, si vous n'allez pas à Paris. Il y a un rassemblement Place Guichard pour soutenir 8 militants d'Extinction Rébellion pour leur action qu'ils ont eue contre Total Energy. C'est aussi la rentrée du comité de lutte. Il y a une AG à la Bourse du Travail à 18h et il y a un autre événement encore à Lyon demain.
Oui, demain, il y a une assemblée générale des AESH en grève, donc les accompagnants et accompagnantes des élèves en situation de handicap. C'est à 10h à la Bourse du Travail et il y aura un rassemblement à 13h devant le rectorat avec une délégation qui sera reçue à 14h.
Et puis jeudi, vous pourrez aller à Lyon 2 si vous voulez pour une conférence sur la colonisation et l'apartheid israélien. C'est en salle CLI 006. Voilà, c'est une conférence qui aurait pu être interdite puisque le CRIF a un peu gueulé pour cette conférence, mais apparemment elle n'a pas été interdite. Et puis on peut peut-être rappeler le rassemblement à 10h30 à BDE, donc sur le campus des quais, 10h30. Venez nombreux et nombreuses.
10h30, donc c'est bien jeudi 5 octobre, 10h30.
Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour le Canus Info, donc le Canus Info en mixité choisie, sans mixis. D'ici là, bonne semaine de lutte.